Bonsoir à toutes et à tous. La monarchie britannique est-elle en danger? Demain soir, une interview choc du prince Harry et de sa femme Meghan pourrait déstabiliser Buckingham en révélant certains secrets de famille. Alors, quelles conséquences sur la famille royale et l'unité du Royaume-Uni? Un pays déjà déstabilisé sur le front économique et sanitaire, avec pas moins de 125 000 morts dus au Covid. C'est un record en Europe. Mais la Grande-Bretagne peut aussi se targuer d'être le pays d'Europe qui vaccine le plus, avec 21 millions de Britanniques vaccinés contre 3 200 000 Français. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Harry, Meghan, règlement de compte à Buckingham ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. Stephen Clark, vous êtes journaliste et écrivain anglais, auteur de, je cite votre dernier ouvrage, « Elisabeth II » ou « L'humour souverain », c'est chez Albin Michel. En duplex, depuis Londres, on retrouve Éric Albert, vous êtes journaliste, correspondant donc à Londres, à la fois pour Le Monde en France, mais aussi pour Le Temps en Suisse. Et enfin, Lucie Robquin, vous êtes rédactrice en chef en charge des enquêtes et de l'international aux Échos. Et je cite votre dernier éditorial qui était intitulé « L'audace britannique ». Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Éric Albert, on commence directement avec vous qui êtes à Londres. Donc, demain soir, on parle d'une interview choc sur la télé américaine du prince Harry et de sa femme Meghan, qui seront tous les deux interviewés sur CBS, je crois. L'interview a déjà été enregistrée. Quelle est l'opinion de la rue anglaise? Alors, je sais que les Anglais... Ou qu'est-ce qu'on en dit dans les journaux et dans les repas de famille de ce qui va se passer demain soir?
Il n'y a pas eu autant de bruit autour de la famille royale depuis en fait le milieu des années 90. C'est vraiment depuis donc Diana, et ça s'était mal fini bien sûr avec la mort de Diana, on revient un peu sur ce mode-là. C'est le réveil en quelque sorte de la machine à broyer médiatique. Les tabloïds en font des tonnes avec, de façon très générale, la méchante, c'est Meghan, ça c'est très clair. C'est donc Meghan s'attaque à la reine, c'est vécu comme ça. Et dans l'ensemble, quasiment tous, les médias britanniques ont pris le parti de défendre la reine contre Meghan. Et c'est vraiment un choc des cultures, puisque c'est une femme qui a fait carrière, qui avait sa propre idée de comment gérer sa propre image, Meghan Markle, et puis elle est face à l'establishment britannique par excellence, où on ne change pas les choses, jamais, et donc c'est clash des cultures très fort, et avec une prise de position vraiment très claire des Britanniques.
Stephen Clark, oui, Meghan Markle, donc l'épouse de Harry, alors elle est à fois américaine, elle est divorcée, elle est métisse, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et est-ce qu'on peut considérer que, vu de Britannique, elle a enlevé le prince charmant qu'elle a envoyé à Hollywood dans l'ancienne colonie?
Pas exactement comme ça. Je pense que lors du mariage, les Anglais ne parlaient pas du fait qu'elle soit métisse, qu'elle soit américaine, oui, parce que ça rappelait les années 30, quand une Américaine est venue voler le roi d'Angleterre. Mais il n'y a aucune comparaison. Je veux dire, oui, d'accord, elle a séduit le bad boy jeune frère du prince William. Mais à l'époque du mariage, les gens, ils étaient très contents. C'était, tout le monde a regardé ça à la télé, ce n'était pas un problème. Et maintenant, pour moi, je suis un peu cynique peut-être, mais ça sent vraiment la fabrique hollywoodienne. Ils ont montré des teasers de l'interview. On sait déjà que Prince Harry et Meghan Markle ont touché 6 millions de dollars pour cette interview. Et je pense qu'on va un peu loin de dire que bon, la monarchie est un peu fragilisée là-dessus, parce que, comme on dit chez moi, la reine a d'autres poissons à frire.
Mais ce que vous dites sur est-ce qu'on peut en conclure qu'au finalement, Meghan Markle, elle s'est rendue compte que son rôle à Buckingham Palace ne lui plaisait pas tellement, et elle a envie de retrouver sa vie trépidante d'actrice américaine à Hollywood?
Elle voulait surtout retrouver ses salaires de Hollywood, parce qu'on a compris que, en fait, dans la famille royale anglaise, quand on est membre de la famille active, on n'a pas le droit de gagner un salaire. Donc, ça, c'était la grande négociation quand ils sont partis aux États-Unis. C'était, est-ce qu'on peut rester membre? Ça veut dire avoir le titre Royal Sussex, c'est tout ça, notre logo, notre marque, et gagner de l'argent. Et la réponse de la reine, c'était non. Donc, ils ont dû s'éloigner un tout petit peu, changer complètement leur site web qui était prêt à lancer avec les petits écussons royaux et tout ça. Et maintenant, ils sont allés un pas plus loin. Ça veut dire que, oh là là, on part, on est victime, tout ça. Oprah Winfrey, qui est vraiment la star de la télé, chez qui on va pour se plaindre. Et donc là, c'est les pauvres victimes un peu, mais Meghan, elle a raison, ce n'est pas du tout son environnement. Oui. Je veux dire, on a déjà vu qu'on dit que elle était un peu méchante avec ses domestiques.
Oui, il y a trois anciens membres du staff de Buckingham qui ont porté plainte pour harcèlement et humiliation, je crois.
Oui, mais ça, c'est parce que dans la famille royale, ils sont tellement respectueux et tout ça des domestiques et tout est tellement organisé que ça se passe super bien tout le temps. Tandis qu'à Hollywood, on sait très bien que les acteurs, les actrices maltraitent la
domestique. Elle a fait des caprices de diva américaine et ça s'est mal passé.
C'est ce qu'on dit, oui. Elle a fait des choses en Angleterre qui ne se font pas dans la famille royale. Donc, ce n'est pas son monde du tout. Donc, elle a raison de s'éloigner, oui.
Anne-Elisabeth Moutet, est-ce que toute la presse, vous êtes au Daily Telegraph, tout le monde va en parler lundi matin de cette interview,
oui,
y compris le Daily Telegraph,
oui,
et sous quel angle? Alors pourquoi cette affaire passionne-t-elle à ce point tous les Britanniques et le monde entier, hein?
2 milliards de personnes ont regardé le mariage. Et le mariage était un moment de liasse et de réconciliation nationale dans un pays qui venait de se faire déjà à l'époque, c'était 2 ans et demi de Brexit. Il y avait cette femme qui était jeune, belle, qui avait enfin consolé le fils cadet de Diana, qui avait un petit garçon de 12 ans suivi le cercueil de sa mère dans les rues de Londres, et qui, quand il l'attendait qu'elle arrive à l'hôtel, il en pleurait. Enfin, il y avait quelque chose d'improfondément émouvant. Et par ailleurs, la Grande-Bretagne est très fière d'être un pays de diversité. Londres est une ville extraordinairement diverse. Et donc, au contraire, si les gens parlaient éventuellement de ses origines et admiraient l'élégance de sa mère, qui a Doria Ragland, la mère de Meghan, qui est venue l'accompagner, c'était au contraire avec le plaisir de dire « Ben voilà, on est un pays qui s'est battu pour un truc politique difficile depuis un certain temps, mais ça, c'est de l'unité. » Et le boulot de la famille royale, ça consiste non pas à prendre des positions politique, mais au contraire à éprouver quelque chose à rassembler le pays. Et la reine ne fait jamais de déclaration, et dans la crise du Covid, elle en a fait 2, ce qui est tout de même énorme. La dernière étant pour dire, dans un Zoom, avec sa tête au milieu de celle de 4 hauts fonctionnaires responsables des différents départements gallois, écossais, britanniques et irlandais du Nord du NHS, c'est-à-dire la sécu anglaise, qu'elle s'était fait vacciner. Ça ne fait pas mal, dit cette dame de 94 ans au public qui l'écoute. Et vous savez, pour se faire vacciner, ça n'est pas seulement pour soi, c'est aussi parce qu'on est responsable des autres autour de soi. Donc vraiment quelque chose de très bien. Et c'est ça qu'on attend de la famille royale. Et l'une des choses, je suis sûre qu'on va en parler, mais il y a eu un gros choc culturel entre Meghan et la famille royale. Alors, le commercial, Stephen en a très bien parlé, mais il y avait le politique, il y avait le fait qu'elle disait...
Elle a signé un contrat avec Netflix, hein.
Alors, elle a signé un contrat avec Spotify.
Non, mais le commercial en a parlé, oui.
Avec Spotify, avec Netflix, avec d'autres choses. Elle vend du café organique. Enfin, c'est une fille très intelligente. Mais elle voulait prendre des positions politiques. Et des positions politiques, on peut ne pas aimer le président Trump, mais quand il était président, mais quand on est une princesse de la famille royale, on ne dit rien sur la politique étrangère. Et elle a beaucoup choqué à ce point de vue-là, parce qu'elle a introduit en plus des manières de parler de politique qui étaient franchement américaines, dans un pays où le rôle de la monarchie, constitutionnellement, est de ne pas avoir d'opinion politique. Ça aussi, ça a choqué.
Alors, un an après ce qu'on a appelé le Mexit, hein, c'est-à-dire le départ de Meghan et Harry de la famille royale, la guerre semble déclarée entre Buckingham Palace et le couple princier, des règlements de compte médiatiques, et c'est tout un royaume qui tremble à quelques heures de la diffusion de la première interview confidence du couple, le récit de Walid Berissoul et Michel Bouilly.
Were you silent or were you silenced? I just want to make it clear to everybody, there is no subject that's off limits.
Ce sont quelques extraits qui font déjà trembler la couronne. Demain seront diffusées les confessions de Meghan et Harry à la reine de la télé américaine. Oprah Winfrey joue avec les nerfs des tabloïds anglais qui n'en peuvent plus de tout ce suspense. Avant même la diffusion de cet entretien de près de 2 heures, ils annoncent que désormais, la guerre est totale entre Meghan et Harry et Buckingham Palace, surnommé ici la firme.
Je ne sais pas comment ils peuvent imaginer qu'après tout ce temps, nous puissions simplement garder le silence, alors que la firme joue un rôle aussi actif dans le fait de colporter des mensonges sur nous. Et si cela vient avec le risque de perdre quelque chose, eh bien, beaucoup a déjà été perdu.
La royale riposte n'a pas tardé. Avec cette révélation dans le très sérieux Times, Meghan Markle ferait l'objet d'une plainte pour harcèlement par trois de ses anciens collaborateurs. Une affaire qui daterait de 2018, mais que la monarchie britannique juge aujourd'hui suffisamment grave pour en faire un communiqué.
Nous sommes très préoccupés par les allégations du Times concernant les plaintes formulées par l'ancienne équipe du duc et de la duchesse du Sussex. La maison royale ne tolérera ni l'intimidation ni le harcèlement au travail.
Pourtant, tout avait si bien commencé pour le duc et l'ancienne actrice américaine divorcée, devenue duchesse du Sussex.
Tu avais à peine fini de parler que je disais déjà oui.
Un mariage royal en 2017, un royal baby 2 ans plus tard.
Je suis avec les meilleurs garçons du monde, je suis très heureuse.
Meghan et Harry étaient partis pour incarner une version jeune et moderne de la couronne. Mais tout s'est très vite dégradé, entre une certaine presse britannique et le jeune couple. Pour Harry, cela ravive un passé douloureux.
J'ai du mal à imaginer à quoi ça a dû ressembler pour ma mère, de traverser tout cela toute seule, il y a toutes ces années. Parce que nous, ça a été incroyablement dur, mais au moins on est ensemble.
Début 2019, ils vont alors prendre une décision en forme de coup de tonnerre.
Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membre senior de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendant.
Après le Brexit, voici le Mexit. Meghan perd ses fonctions caritatives, Harry renonce à ses titres militaires. Dépourvu de leur rang royal, le couple écrit la suite de son histoire en s'installant à Hollywood.
Là-bas, au bout de la rue, c'est la maison de Bruce Willis.
Aux côtés dans cette vidéo d'un célèbre humoriste britannique, le prince Harry épouse les codes du divertissement et du star system. Contrat avec des grandes plateformes, villa à 15 millions de dollars, les Sussex cultivent leur marque et donne des migraines aux gardiens du temple.
Oh, ne m'en parlez pas.
Comme ce chroniqueur royal.
Je suis très inquiet pour l'image de la famille royale, parce qu'il va leur être difficile de riposter. Quand vous avez plus de 70 millions de personnes devant l'interview choc d'Oprah, si certains faits sont détournés, c'est presque impossible de rectifier. Mais mon sentiment, c'est que je pense que cette interview ne devrait pas avoir lieu. Régler ses comptes d'une façon aussi revancharde n'est vraiment pas une bonne chose, surtout que le duc d'Édimbourg est à l'hôpital.
Hospitalisé depuis 3 semaines, le prince Philippe, 99 ans, c'est l'autre sujet qui inquiète le palais de Buckingham. Tandis que la reine, elle, s'est affichée il y a quelques jours plutôt souriante, fidèle à l'adage bien connu des Anglais, restons calmes et avançons.
Tout le monde disait des choses gentilles.
Alors,
sur elle.
Alors, Éric Albert, donc, verdict hein, demain soir. L'interview, du coup, elle sera diffusée au milieu de la nuit, d'ailleurs, j'imagine, avec le décalage horaire. Mais la question n'était pas là. Le prince Harry, la semaine dernière, a expliqué dans une autre interview, toujours en Californie, qu'il s'agissait d'extirper sa famille d'un environnement toxique. Il est parti aux États-Unis pour, dit-il, protéger sa famille contre un environnement toxique. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il en veut à qui, en fait? Qu'est-ce qu'il a fui en quittant son pays? Et Buckingham.
La presse, c'est très très clair. C'est quelqu'un qui a été, pour de justes raisons, effectivement traumatisé par la mort de sa mère, qui était poursuivie par des paparazzi. Il y a cette vidéo qu'on a tous en tête de lui suivant le cortège funéraire. Et depuis, il a une relation extrêmement toxique avec la presse. C'est quelqu'un qui lit les articles qui sont sur eux, qui lui sont qui sont écrits sur lui, qui lit même les commentaires des articles, qui est donc pas du tout à l'aise par rapport à ça, et qui en permanence est tiraillé entre je voudrais qu'on me laisse tranquille, et donc je ne veux pas jouer le jeu de la célébrité, et en même temps, oui, mais je suis le prince Harry, et donc j'ai besoin de jouer ce jeu de la célébrité. Et donc la façon dont Meghan traite les choses de façon hollywoodienne, c'est-à-dire contrôle complet. On ne va pas laisser accès aux journalistes, mais on va fournir des images prêtes en boîte pour les réseaux sociaux et on ne va surtout pas donner d'accès, ou en tout cas les accès qu'on veut, et c'est nous qui allons maîtriser. Ça allait à rebrousse-poil des tabloïds. Donc il y a vraiment une guerre très importante à comprendre entre les tabloïds britanniques qui voulaient accès à Meghan et à Harry et qui étaient prêts à faire de Meghan une formidable princesse métisse américaine moderne, et puis mais qui le faisait à condition de pouvoir avoir un peu d'accès. cet accès leur a été refusé parce que Harry n'est pas à l'aise du tout avec la presse et parce que Meghan voulait contrôler complètement. Et ça s'est fini par la presse tabloïde britannique se retournant contre Meghan et Harry et finalement ce départ aux États-Unis.
Lucie Robquin, ce qui peut paraître paradoxal, c'est qu'il fuit la presse, nous dit Eric Albert. Et que fait-il aux États-Unis ? Il accorde, alors vous, je sais que vous avez été correspondante aux États-Unis, il accorde une interview demain soir à Oprah Winfrey. C'est pas n'importe qui,
c'est non ? Oui, tout à fait. C'est le monument de la télévision américaine. Donc c'est effectivement assez paradoxal de fuir la presse et d'aller faire une interview chez elle. Elle a un don pour soutirer les confessions. Elle fait des interviews assez intimistes hein, qui confinent souvent au voyeurisme. Hein, donc c'est ce qui effraie la monarchie anglaise aujourd'hui. Elle a presque psychanalysé une grande partie du Gotha américain. On se souvient de cette interview incroyable de l'actrice Whitney Houston qui s'était beaucoup épanchée à l'époque sur ses difficultés avec son mari Bobby Brown. C'est à Oprah Winfrey que Lance Armstrong avait fait ses confessions lorsqu'il avait été accusé de dopage lors de ses différents tours de France. Et puis Oprah Winfrey, elle a déjà fait beaucoup de mal à la monarchie britannique. Elle avait fait une interview assez incroyable de Sarah Ferguson, je crois que c'était en 96, juste après son divorce avec le prince Andrew. Et déjà à l'époque, Sarah Ferguson avait dit tout le mal ce qu'elle pensait de la monarchie. Donc voilà, on a de quoi s'inquiéter, la famille royale a de quoi s'inquiéter de cette nouvelle interview avec Oprah Winfrey.
Alors justement, que va-t-il dire ? Stephen Clark, il fuit la presse. Est-ce que Harry aussi fuit certains membres de sa famille, je ne sais pas quelles sont ses relations avec son frère aîné, William, qui va être roi, et pas lui. Je ne sais pas d'ailleurs si ça peut peser dans le
oui,
mental.
C'est ça,
les relations avec son père, le prince Charles, qui je crois lui a supprimé la dotation royale du coup. Hein.
Non mais je pense que surtout, il a des tensions dans sa famille, et il joue ce rôle très ingrat de prince qui ne va jamais être roi, mais je pense que c'est presque physiquement, la fuite est presque physique. C'est un peu comme Louis XIV qui est parti à Versailles, parce que la Louvre est dans le centre de Paris. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'on sort, on est entouré de monde. Les paparazzi peuvent être dans la rue, devant les palais, dans le centre de Londres. Si on vit là, et là, c'est là où vivent la plupart de la famille royale, on ne peut pas sortir de chez soi sans avoir la foule autour de soi physiquement. Tandis qu'en Californie, on vit très loin de la rue, derrière des portes sécurisées, on sort en limousine blindée avec les vitres noires. Là, à Londres, c'est vraiment le contraire. Les paparazzi peuvent être juste traînés devant le palais. Et c'est vraiment Louis XIV de Versailles. C'est un peu cette fuite-là.
L'étouffement qui constitue le palais de Buckingham. On est traqué. Diane qui est en plein centre de Londres. On est
Diane
traqué.
Diane a été suivie sur le trottoir dans la rue. C'était ça.
Anne-Elisabeth Moutet.
Quelque part, une tragédie qui est le fait que ces deux frères, qui étaient les enfants de Diana, qui ont donc vécu la mort de leur mère, qui étaient complètement unis, aucun d'eux, ni leur père d'ailleurs, n'aime vraiment beaucoup la presse, mais qui se disaient, il y a un seul qui peut comprendre, c'est mon frère. Et l'arrivée de Meghan, le mariage de William n'a absolument rien fait. Il y avait les deux frères et la femme de William ensemble, et ils avaient créé ensemble une fondation caritative. Quand Meghan arrive, très vite, il y a une séparation, et on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé, mais ce qu'on disait à Buckingham, c'est très triste, les deux épouses ne s'entendent pas, mais les deux frères ont commencé à ne plus s'entendre non plus, parce que William, quelque part, avait l'impression qu'elle l'écartait à la fois de ce qui, pour lui, était naturel et qui était ce qu'on fait dans la famille, c'est-à-dire une certaine discrétion, ne pas se plaindre, ne pas discuter. Et puis, il y a eu des clashs, justement, où on parlait de ces accusations de harcèlement, de harcèlement moral auprès du personnel. Non seulement il y a 10 personnes qui ont dit qu'elles étaient prêtes à aller témoigner dans ce procès, donc ce n'est pas seulement les 3 personnes qui ont déposé plainte, mais 10 membres, anciens membres de leurs équipes qui sont prêts à aller témoigner qu'elles ont été témoins de ça, mais apparemment Meghan aurait aussi créé des problèmes avec le personnel de la reine, notamment la personne qui s'occupe des bijoux et des vêtements de la reine, Angela Kelly, quand on lui a refusé une tiare en diamant et en émeraude pour son mariage, et la reine a fini par... aime beaucoup ça, Angela Kelly a recadré Harry pour qu'il dise à ta femme qu'on ne parle pas comme ça, et elle a aussi des clashs avec des personnes qui travaillaient pour Kate, la duchesse de Cambridge. Et même chose, Kate qui a eu des accrochages avec Meghan, des moments pour la préparation du mariage, les essayages, les enfants, et a été assez choquée de la brutalité de certaines réflexions, mais c'est passé et elle n'en a pas parlé. Quand elle a commencé à maltraiter les gens qui travaillaient pour elle, elle a dit « on d'accord. ne parle pas comme
les
ça ».
Les relations se sont détériorées entre les deux frères. Un mot sur les relations entre Harry et son père. Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est tabloïd, est-ce que c'est de la presse de bas niveau que de dire qu'il y a toujours des doutes sur est-ce vraiment son père, le prince Charles ?
Il n'y a pas de doute en réalité. C'est un peu tabloïd parce qu'en réalité, on sait que quand Harry est né en 1984, Diana a rencontré James Hewitt, qu'on soupçonnait à un moment d'être le père de Harry en 1985, et avant, il était dans le golf avec une unité de cavalerie. Donc non, c'est pas possible. Avec leur père, c'est assez différent. Le père est un très bon père. Diana a souvent dit du mal de son mari en disant qu'il ne s'occupait pas des garçons, mais ce n'est pas vrai.
Mais le film The Crown a montré, et on va arriver à ce film, The Crown, a montré un père qui s'est peu occupé de son épouse.
C'est autre chose.
Est-ce que Harry peut en vouloir à son père? Et au fond, avec ce film même, c'est « Allez, je quitte cet environnement toxique ». C'est ce qu'il a dit la semaine dernière.
C'est pas de ça qu'il parlait. Et en réalité, les garçons aiment leur père. On le voit souvent, ils en ont témoigné. On les a vus au ski ou à Troyes. Il y avait un truc photo où le père a dit du mal des journalistes et les garçons ont dit « Papa, tu peux pas dire ça ». Mais en revanche, ce que tout le monde sait, c'est que le père ne les tient pas. C'est-à-dire que depuis qu'ils étaient adolescents, il ne l'obéissait pas, il s'engueulait avec lui. Enfin, il n'avait aucune autorité sur eux. Alors, beaucoup de pères avec des garçons d'accord. connaissent ce genre de problème, mais ce n'est pas un problème avec leur père. C'est ce que Stephen dit, d'accord. c'est vraiment un problème de ne pas comprendre qu'en Grande-Bretagne, on ne discute pas avec la presse et on ne fait pas de procès tous les quarts d'heure.
Éric Albert, Stephen Clerc disait « Physiquement, Buckingham est étouffant ». Meg Markle, enfin la femme de Harry, a parlé de la famille royale en parlant de la firme. La firme qui fait évidemment penser à ce film de Tom Cruise, hein. De Sidney Pollack, je crois, des années 90, où la firme, c'était une entreprise mafieuse. Et c'est vrai que le film The Crown montre cette famille royale comme quelque chose, quasiment une secte. Hein. Est-ce que cet environnement a pesé ? L'autre question, est-ce que ce film The Crown a aussi sali, finalement, la réputation de cette famille royale au point qu'on la surnomme la firme maintenant ?
Je ne sais pas si le film l'a sali, parce que dans l'ensemble, le film est plutôt positif. En revanche, c'est très important ce que vous dites, appelez ça la firme, c'est vraiment ça qui est en train de se produire. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne respecte pas exactement les codes est progressivement mis au ban. C'est ce qui s'est passé. Le palais de Buckingham Palace, donc la reine concrètement, n'avait pas besoin de complètement couper ce qu'elle a fait il y a un mois avec un communiqué extrêmement dur. Elle aurait pu trouver un léger rôle pour Harry, même s'il était en Californie et même si en lui gardant quelques titres, c'était possible de trouver un compromis. Il n'en était pas question. Il a été quasiment exclu de la firme, et c'est vraiment ce qui se passe. Parce que cette foire du trône là, auquel on assiste, ce soap opéra mondial extraordinaire, tout ça est très rigolo et très intéressant et amusant, et c'est vrai qu'on finit par se prendre au jeu. Mais la vérité, c'est que la reine est absolument intouchable, elle a 94 ans, elle n'a rien dit d'intéressant en 70 ans, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais fait un faux pas, c'est une autre façon de le dire, et elle est absolument intouchable. Et donc la monarchie ne sera pas du tout bousculée par Meghan et Harry, même si, effectivement, ça va faire du bruit pendant leur interview, même si, effectivement, ça remplit les tabloïds. La firme est intouchable et la firme fera tout ce qu'il faut pour exclure les gens qui l'incommodent.
Stéphane Clerc, est-ce que vous diriez que la royauté est suffisamment forte, comme vient de le dire Éric Albert, elle survivra à ses péripéties, à ses rumeurs de caniveau, ou est-ce que non, la royauté britannique commence à être fragilisée? Attention, la reine Elisabeth II n'est pas éternelle, et je ne sais pas, est-ce que c'est un sujet clivant? Est-ce que les Anglais sont tous, disons, ah non, bah, ils applaudissent, ou est-ce qu'il y a des Anglais qui disent qu'il serait temps de passer à autre chose?
Non, d'abord, on n'est pas sûr que la reine ne soit pas éternelle, ça n'a pas été prouvé encore, mais surtout, moi je dirais plutôt, je ne vois pas ça comme une firme, je vois ça plutôt comme un régiment. Il y a des rangs, il y a du protocole, on obéit aux règles, sinon c'est punition ou on est dehors. Et c'est ça le deal, hein. Est-ce qu'on est membre de la famille royale, on a des palais et tout ça, mais la reine, ce qu'elle fait de très sérieux, c'est de faire respecter le protocole. Ça veut dire que quand elle dit non, c'est non. Et si elle dit non, c'est pour une raison qui protège la monarchie. Parce que à la mort de Diana.
Mais est-ce qu'elle est menacée, cette monarchie?
Non, à la mort de Diana, elle était menacée. D'accord. Parce que le peuple, les gens, tout le monde l'a trouvé la reine froide, l'a trouvée trop distante. Et depuis, elle a très bien compris. Et depuis, elle gère vraiment bien la marque de la famille royale. C'est toutes ces grandes occasions que l'on voit, des mariages, des jubilés, tout ça, moi, je n'ai jamais vu, à part les Olympiques et les Jeux de la Coupe du Monde, c'est les seules occasions joyeuses qui attirent les médias du monde et ils viennent régulièrement à Londres. Donc, la monarchie a compris ça, donc ils sont hyper bien ancrés maintenant.
Et Anne-Elisabeth Moutet, parce que la question, pourquoi on parle de ça dans un C'est dans l'air? Parce que la question, on dit beaucoup, et vous me direz si c'est vrai, que la reine, c'est le ciment du Royaume-Uni. Au fond, si ces quatre régions tiennent ensemble, à savoir le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande du Nord et l'Angleterre, c'est parce que tous les quatre se prosternent devant Elisabeth II et devant la famille royale qui est l'ADN de ce Royaume-Uni.
Oui, mais ce n'est pas du tout une question de se prosterner. La relation entre le citoyen sujet britannique et la famille royale est quelque chose de beaucoup plus organique et beaucoup plus familial. On peut vraiment, tout le monde apprend dans la famille royale, et c'est peut-être ça qui était reproché à Meghan, c'est que le respect doit aller des deux côtés. Et il y a le sens du devoir et ce qui les tient ensemble. Alors, je veux tout de même reprendre quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est l'expression « la firme » a été inventée par le prince Philippe il y a au moins 40 ans. Et quand il y a eu des problèmes de relations et d'image de la famille dans les années 60, à la fin des années 60, il y a eu la création, et ensuite avec l'histoire de Diana, il y a eu la création de ce qui s'appelle le Way Ahead Committee, le comité pour aller de l'avant, qui est une réunion de hauts fonctionnaires et de membres seniors de la famille royale. Et on parlait généralement de la firme, et c'était bien avant que Tom Cruise fasse des films d'après des romans de John Grisham, mais ça n'a rien à voir, ça n'était pas péjoratif. Ça voulait dire la manière un petit peu modeste de quelqu'un qui habite dans un palais de 360 pièces comme Buckingham Palace. Le prince Philippe disait, vous savez, moi j'habite au-dessus de la boutique. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la firme, et ce n'est pas du tout sinistre. Donc ça compte. Mais je pense vraiment que là, dans ce cas précis, je suis tout à fait d'accord avec Stéphane pour dire que ce n'est pas autant en danger, mais en revanche, la mort de la reine va être quelque chose d'évidemment traumatique, puisqu'il n'y a pas d'Anglais vivant pratiquement qui ait connu une période sans cette reine. Elle n'a fait un sans-faute total. Est-ce qu'ils ont confiance dans le prince Charles? Et ça n'a pas grand-chose à voir avec Meghan. Il a très bien traité Meghan. Il l'a emmené à l'hôtel quand son père n'a pas pu venir. Donc ça, c'était pas un problème. Mais il y a une question de savoir, est-ce que vraiment la suite est utile avec les héritiers? Et c'est ça la vraie question. Et je pense que Meghan n'y est pas pour grand-chose.
D'accord. Donc vous avez l'air de dire, tant qu'il y a la reine, tout va bien. Éric Albert, la succession d'Elisabeth II reste un point d'interrogation et un point d'interrogation important pour l'avenir du Royaume-Uni et de son ciment qu'est cette famille royale.
C'est un ciment qui est important, effectivement. Vous savez, même les nationalistes écossais, qui ont longtemps été plutôt républicains, ont changé et ont décidé, il y a 20 ans à peu près, de dire « nous voulons conserver la reine en chef d'État si nous devenons indépendants ». Donc même les Écossais nationalistes, effectivement, ne veulent pas toucher à la reine. Après, la succession, on la connaît, on sait que ce sera le prince Charles qui deviendra roi, ça c'est pas une question. En revanche, comment est-ce qu'il sera reçu? C'est pas une évidence. Vous savez, il y a 20% de républicains au Royaume-Uni. C'est une minorité, mais c'est pas complètement négligeable. Est-ce que ces 20% et ces 20% pour l'instant sont inaudibles parce que la reine est aimée de tout le monde, y compris d'eux-mêmes. Eux-mêmes reconnaissent qu'elle fait un bon travail. Est-ce que ensuite le prince Charles fera moins un bon travail? Est-ce que les questions républicaines reviendront? Peut-être, ça prendra beaucoup de temps avant que l'usure de la couronne soit vraiment prononcée. Mais effectivement, ce sera plus difficile après la reine.
Alors, en parallèle de cette crise à Buckingham Palace, le Royaume-Uni subit une crise sanitaire, bien sûr, mais aussi une crise économique. L'économie britannique a enregistré en 2020 sa chute la plus importante depuis 300 ans, une chute du PIB de 9,9%. Et symbole de cette crise sans précédent, la City de Londres n'est plus aujourd'hui la première place boursière d'Europe, c'est Amsterdam. Le gouvernement britannique lui promet des aides et des hausses d'impôts. Sujet de Julien Launay et Dominique Lemarchand.
Le même rituel, chaque année. Avant de présenter son budget, le ministre britannique des Finances doit prendre la pause. Il brandit cette valise en cuir rouge où se trouve son discours prononcé pour l'occasion. Le contenu de la Red Box, très attendu dans le contexte actuel avec l'épidémie de Covid-19. le Royaume-Uni subit une récession historique.
Les dommages causés par le coronavirus à notre économie ont été très importants. Depuis mars, plus de 700 000 personnes ont perdu leur emploi. Notre économie s'est contractée de 10%, la plus forte baisse en plus de 300 ans. L'endettement est le plus élevé que nous ayons jamais connu hors période de guerre.
Au total, 470 milliards d'euros d'aide pour tenter d'amortir le choc de la crise sanitaire. Alors, afin de redresser les comptes, le gouvernement vient d'annoncer une augmentation de la fiscalité. D'ici 2023, l'impôt sur les sociétés passera de 19 à 25%. Presque inenvisageable il y a quelques mois pour le très libéral Boris Johnson. En début de semaine, il se voulait pourtant rassurant.
Je ne doute pas que si nous faisons les choses correctement, comme je suis sûr que nous le pouvons, nous pourrons avoir une reprise forte, axée sur l'emploi, qui, je pense, pourrait être bien plus forte que ce que beaucoup de pessimistes ont prédit au cours de ces 6 derniers mois.
Optimisme forcené car les prévisions de croissance ne sont pas aussi encourageantes. Le Royaume-Uni retrouvera son niveau économique d'avant-pandémie courant 2022. Grande fragilité, d'autant qu'il y a aussi les répercussions du Brexit. Récemment, Londres a même perdu sa position de première place boursière européenne. De quoi faire paniquer la City ? Non, répondent certains financiers.
Le Brexit donne au Royaume-Uni l'opportunité de définir son propre agenda et de le définir en fonction des services financiers. Je ne pense pas que Londres doit se focaliser sur Francfort ou Paris. Il faut se concentrer sur New York et Singapour.
Nouveaux horizons grâce au Brexit. En attendant, il y a la crainte de voir des patrons déserter le sol britannique. Comme ce producteur français de caviar, basé en Dordogne.
Ici, on a des femelles reproductrices qu'on ne va pas trop stresser parce qu'elles vont donner leurs œufs bientôt. Pour la reproduction. Et elle pèse entre 18 et 36 kilos.
C'est en 2017 que Laurent de Verlange a choisi de s'implanter de l'autre côté de la Manche. Une étape logique à l'époque dans le développement de son activité.
Au Royaume-Uni, il n'y a pas d'élevage d'esturgeons. Il y a une fabrique de caviar qui utilise des poissons élevés en Europe. Et donc, naturellement, les éleveurs français qui ont quand même inventé l'élevage de l'esturgeon ont une bonne réputation. Donc pour nous, c'était naturel. Si on devait ouvrir quelque part une filiale, puis peut-être un restaurant, une boutique, que ça se passe à Londres.
Deux employés et des bureaux dans le quartier londonien de Covent Garden. Mais l'aventure tourne court. Elle prend fin l'été dernier. Expérience écourtée avant même que le Brexit ne devienne réalité.
Plus que la taxation, c'était les problèmes administratifs et douaniers, plus que la taxe. De payer 20% de taxes, par exemple, ce qui aurait été possible, ils en parlaient encore il y a quelques mois, le prix aurait été 20% supérieur et ça n'aurait pas changé la face du monde pour nous. Mais par contre, de perdre un mois chaque fois qu'on veut envoyer une boîte à Londres, ça, c'est vraiment handicapant.
Des entreprises qui font leurs valises, tout comme les travailleurs étrangers. Ils sont 1 300 000 à avoir quitté le Royaume-Uni en un an.
Alors, question de téléspectateur Lucie Robquin. La situation économique du Royaume-Uni s'améliore-t-elle ?
Non, pas pour l'instant. Hein. C'est très dur pour tous les pays, mais ça l'est peut-être encore plus pour le Royaume-Uni, car comme on vient de le dire, elle est confrontée à cette double peine à la fois de la pandémie et du Brexit. Et on en voit des effets très concrets dès maintenant. Hein. Il faut savoir que sur les 12 derniers mois, par exemple, il y a 1,3 million d'expatriés qui ont quitté le Royaume-Uni. C'est absolument catastrophique pour le pays. 700 000 rien qu'à Londres. Et ça risque d'empirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'activités. Donc, ces travailleurs ne manquent pas forcément à l'économie britannique. Le jour où l'économie va repartir, ce sont autant de travailleurs qualifiés, et aussi moins qualifiés d'ailleurs, qui vont manquer aux entreprises britanniques. Donc, tout laisse à craindre que la situation empire encore dans les mois qui viennent pour le Royaume-Uni.
Alors, Eric Albert, ce qui peut paraître surprenant dans ces circonstances, c'est de voir le gouvernement britannique qui décide de relever les impôts. Enfin, nous, on n'arrête pas de dire en France, quand ça va mal, il ne faut surtout pas casser un embryon de croissance en relevant les impôts. Donc, comment se fait-il que la droite relève les impôts ?
C'est Boris Johnson et paradoxalement, on va dire, un gaulliste. Il est très interventionniste, il dépense beaucoup, c'est pas du tout quelqu'un qui fait attention à son déficit, mais qui effectivement, face au trou béant des finances publiques quand même cette fois-ci, est obligé de faire un geste, mais c'est un geste pour 2023. Donc 2021-2022, il y aura un grand plan de relance, encore. Et puis 2023, ils ont donc annoncé qu'ils augmentaient l'impôt, et pas n'importe lequel, celui sur les sociétés, celui même que David Cameron, son prédécesseur du même bord politique, avait baissé et avait mis en avant en disant « Regardez, nous, Britanniques, nous sommes très ouverts au business parce que nous avons, et nous avons ce taux d'imposition sur les sociétés très bas. » Donc Boris Johnson fait ça à l'envers. Il sait que les Britanniques n'ont plus aucun goût à l'austérité. Ils ne veulent plus aucune coupe budgétaire parce qu'il y a eu des coupes budgétaires pendant presque 10 ans et qu'il n'en est plus question. Donc c'est une façon de dire voilà, il y aura besoin de faire des efforts, ces efforts ils seront fiscaux et ils seront sur les entreprises. A priori, le problème c'est que ça ne suffira pas, il faudra faire d'autres efforts et ça ce sera pour 2023-2024 et on verra à ce moment-là.
Anne-Elisabeth Moutet, c'est quand même surprenant d'entendre Eric Albert dire Boris Johnson est un gaulliste, parce que Boris Johnson c'est le même parti que Margaret Thatcher qui elle n'avait qu'un mantra de baisser les impôts, de faire des coupes sombres dans les programmes et d'ouvrir les frontières. Il fait tout le contraire, Boris Johnson. Il relève les impôts et il ferme les frontières.
Il faut savoir quand elle est arrivée, Margaret Thatcher. Elle est arrivée en 1979. L'Angleterre venait de connaître ce qu'on appelait l'hiver de mécontentement. Elle était paralysée par les syndicats et par un système extrêmement ossifié. Et donc, elle créait une révolution libérale dans un pays qui n'avait pas connu ça depuis les années 50.
Est-ce que Boris Johnson n'en crée pas une ? Est-ce qu'il change pas l'ADN de la droite anglaise ?
Alors, là, c'est intéressant. Je pense que la droite anglaise, son ADN, c'est d'être plusieurs choses à la fois. Puisque c'est un pays bipartite, chaque parti a différents courants. Mais je pense aussi que, vous dites, il est gaulliste, c'est étonnant, il est churchillien, il s'est réclamé Churchill, et il y a des choses en commun dans cette idée de traiter l'urgence. Ce que je pense, c'est qu'il pense que, de toute façon, il faut remettre des choses dans la machine en 21 et en 22, et en 23, il va falloir les payer, parce qu'il n'a pas du tout l'intention d'arriver aux élections en 24, avec un trou toujours aussi grand. Et d'autre part, il veut garder ce qu'on appelle le mur rouge, c'est-à-dire toutes ces circonscriptions du nord de l'Angleterre qui avaient voté pendant 80 ans travaillistes et qui maintenant votent conservateurs. Et donc, il a une politique qui consiste à dire, déjà, les gens s'en sont pris plein la figure, il n'est pas question qu'on leur rende la vie encore plus difficile, d'autant que si l'économie britannique a peut-être une capacité de rebond, c'est justement parce qu'il y a eu cette austérité pendant 10 ans. Donc, il a une attitude keynésienne qui consiste à dire la théorie économique doit s'adapter à la situation avec laquelle, à laquelle elle doit faire face. C'est aussi un pari, on va voir comment ça se passe.
Stephen Clark, on a quand même l'impression que la crise a changé Boris Johnson, qui était arrivé d'ailleurs un peu trumpiste en disant « moi le Covid, j'y crois pas ». Maintenant, c'est presque un exemple, la Grande-Bretagne, en tous les cas pour la vaccination. Et il s'est débarrassé de ses conseillers un peu, j'allais dire pas sulfureux, mais un peu borderline comme Dominic Cumming. Est-ce qu'on peut dire qu'il est, la crise l'a transformé ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est toujours aussi populiste. Il donne l'impression de quelqu'un qui veut plaire, il veut être aimé. Il s'est débarrassé de ce Dominic Cummings parce que c'était l'homme le plus haï du pays, donc il ne pouvait vraiment pas rester. Il a laissé en place des ministres contre lesquels il y a des sérieuses accusations de corruption. Et je ne sais pas, moi je vois, ça fait longtemps que je n'ai pas pu aller à Londres parce que, à cause des problèmes, mais de la pandémie, mais quand j'y vais, je suis logé près de Canary Wharf, qui est l'endroit où il y a toutes
c'est
les banques.
L'équivalent de la défense, c'est là où il y a tout, voilà. Tous les
maintenant, si vous voulez
centres d'affaires.
Oui, aller louer un appartement par là, ça ne coûte rien. Il
n'y
a, a plus personne, ils sont tous partis. Je veux dire, on fait des annonces dans le budget du chancelier, qui sont très actifs, et puis l'économie va se remettre, mais il y a des dégâts invisibles que l'on ne voit, pas. Tous ces gens, ces millions de personnes qui sont partis, ils sont juste partis avec leurs valises. Ils sont partis en emmenant une énorme tranche de l'économie. Londres vivait des transactions financières, et toutes ces banques partent à Amsterdam, à Paris. Et ça, c'est des énormes pertes pour le pays. Et il y a plein de gens, plein de conservateurs, plein d'amis de Boris Johnson. Et ce mur rouge là dans le nord de l'Angleterre, ils détestent les banquiers. C'est des capitalistes, on ne les aime pas. Mais Il faut dire que Londres, à l'époque, il y avait du champagne littéralement tous les vendredis soirs dans ce quartier-là, tous les pubs, les mecs, ils n'étaient pas à la bière, ils étaient, les femmes aussi, au champagne. Et maintenant, c'est fini.
Lucie Robquin, c'est vrai qu'on se disait beaucoup, est-ce qu'à l'occasion du Brexit, on ne va pas nous faire un Singapour sur Tamise? Est-ce que l'Angleterre ne va pas devenir un paradis offshore? Et à écouter Stéphane Clerc et Anne-Elisabeth Moutet, pas du tout. On voit une Angleterre qui méprise les banquiers, un Boris Johnson qui dit les banquiers, ce n'est pas important, et qui s'occupe des ouvriers du Nord qui ont voté Boris Johnson.
Oui, on n'est pas du tout sur un Singapour sur Tamise, ne serait-ce que parce que l'impôt sur les sociétés va passer de 19% à 25%. Finalement, c'est paradoxal. Le Royaume-Uni va rejoindre le niveau que veut atteindre la France également. Donc, il y a une sorte de convergence européenne. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de paradis fiscal à Londres. Et effectivement, il y a cette politique keynésienne, cette volonté de distribuer beaucoup plus d'argent aux régions du nord de l'Angleterre. Ça s'explique. Hein. Je pense que l'ADN du Parti conservateur britannique a un peu évolué parce que l'électorat du Parti conservateur a évolué. Il faut savoir qu'aux dernières élections, ce sont les régions du nord, plutôt pauvres, qui ont permis l'élection de Boris Johnson. Donc, on comprend un peu cette mouvance keynésienne au sein du Parti conservateur. Et il y a beaucoup de gens déçus parce qu'ils espéraient effectivement faire du Royaume-Uni une place extrêmement compétitive pour les institutions financières.
Alors, ah oui, parce qu'on le rappelle, hein, pour les actions européennes, la première place d'Europe, ça n'est plus Londres, c'est Amsterdam qui a dépassé Londres. En tous les cas, c'est le rayon de soleil dans le ciel gris du Royaume-Uni, et pas des moindres. Les Britanniques pourraient bien être les premiers en Europe à tourner la page du coronavirus. C'est en tous les cas la promesse de Boris Johnson qui, depuis plusieurs mois maintenant, a tout misé sur la vaccination. Voyez ce sujet de Laszlo Jalabert et Erwan Ilion.
Cette semaine, Boris Johnson peut avoir le sourire. Sur Twitter, le Premier ministre britannique a annoncé une victoire.
20 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont maintenant reçu le vaccin. Une énorme réussite nationale.
20 millions de personnes ont donc reçu au moins une dose. Une fierté également partagée par son ministre de la Santé.
C'est absolument fantastique. Un grand merci aux équipes de soignants. Je veux aussi remercier chaque personne venue recevoir sa piqûre.
Le gouvernement de Sa Majesté a de quoi fanfaronner. Seulement 6,8 millions de personnes ont été vaccinées en Allemagne, tout juste 5 millions en France et en Italie. En décembre, Bojo mise tout sur la vaccination de masse. Peu importe l'endroit, une salle d'exposition, un cinéma, ou plus insolite, la cathédrale de Salisbury.
Je me sens chanceuse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas droit. Moi, je l'ai, donc je suis assez heureuse.
Pourtant, avant l'engouement, il y a eu la détresse. Avec 124 000 morts depuis le début de la pandémie, le Royaume-Uni est le pays le plus touché d'Europe. Les hôpitaux sont débordés. L'arrivée du variant anglais oblige à un nouveau confinement début janvier. Accusé d'avoir réagi trop tard, Boris Johnson assume cette défaite personnelle.
Je tiens à répéter que je suis profondément désolé pour chaque vie perdue. Et bien sûr, en tant que Premier ministre, j'assume la pleine responsabilité de tout ce que le gouvernement a fait.
Son unique espoir tient alors dans un petit flacon, le vaccin Oxford-AstraZeneca qui suscite d'abord de la défiance. La Haute Autorité de Santé ne recommande pas son usage pour les plus de 65 ans avant de changer d'avis. Bojo, lui, n'hésite pas à endosser le costume de scientifique et à défendre ce nouveau produit national.
Nos propres autorités ont indiqué très clairement qu'elles pensent que le vaccin Oxford-AstraZeneca est très bien et efficace. Il confère un haut degré de protection après une seule dose. Et même plus après deux doses.
Un pari d'autant plus réussi que les derniers chiffres sont très encourageants. Le nombre de contaminations passe de 60 000 le 9 janvier à 6 719 début mars. Récemment, le Premier ministre britannique se paye même le luxe d'annoncer une réouverture totale des lieux publics dès cet été.
Because of the immense
Grâce aux immenses possibilités de la vaccination de masse et grâce à la science qui nous permet de protéger la totalité de la population, on peut vraiment voir la date du 21 juin avec beaucoup d'optimisme.
Le calendrier d'un déconfinement progressif a déjà été révélé. Dès le 17 mai, les stades anglais pourront de nouveau recevoir des supporters. Boris Johnson se dit même prêt à accueillir la totalité des matchs de l'Euro 2021.
Alors, question téléspectateur, Eric Albert. Comment se fait-il que le Royaume-Uni ait réussi à vacciner plus de personnes que nous ?
Ils ont été plus rapides en commençant beaucoup plus tôt et en étant plus libres. Donc, dès le mois de mai, par exemple, alors qu'on ne savait pas quel vaccin fonctionnerait, alors qu'on ne savait pas s'il fonctionnerait du tout, ils ont passé des commandes avec donc en signant et en payant auprès d'AstraZeneca, auprès de Pfizer, auprès de tout le monde. Et ils ont commandé au total quand même 300 millions de doses de vaccins, soit donc de quoi vacciner toute la population trois fois. C'était une façon de dire on parie sur tout. Oui, c'est peut-être trop cher, c'est un vrai coût. Mais c'est rien comme coût par rapport à ce que ça représente de pouvoir réouvrir le pays. Et puis, ils ont une agence du médicament qui est à la pointe, qui a toujours été à la pointe, et qui a donné l'autorisation la toute première, et qui n'a pas voulu être solidaire de l'Union européenne, l'a fait dans son coin, mais ça leur a permis d'être plus rapide. C'est, l'honnêteté intellectuelle oblige de le dire, c'est quelque chose qui est possible en partie grâce au Brexit, parce que politiquement, ils ne se sentaient pas obligés de commander en masse avec le reste de l'Union européenne. Maintenant, il faut quand même le dire, ceci est dans un contexte catastrophique. Je parle d'un pays qui est confiné encore aujourd'hui. Les écoles ne rouvrent que lundi. 125 000 morts, c'est une fois et demie de plus de morts qu'en France. C'est un bilan catastrophique avec une chose extrêmement positive, et on ne peut pas leur enlever ça, c'est les vaccins.
Anne-Elisabeth Moutet, est-ce que ce n'est pas la preuve que finalement le Brexit, c'est positif? Enfin, du point de vue de la campagne vaccinale, c'est une publicité pour le Brexit. Là, on est agile quand on n'est plus dans l'Union européenne et alors, on peut vacciner tout 21 millions de
résidents. Il s'est passé résidents. Deux choses simultanément. Il s'est passé qu'effectivement, les Britanniques ont eu à la fois de l'initiative, du courage et une grande imagination pour faire cette vaccination le plus vite possible, que chaque fois qu'ils voyaient quelque chose qui marchait, ils allaient en parler. Ils ont consulté les Israéliens très tôt. Les Israéliens leur ont dit « Servez-vous notamment de la logistique de l'armée ». Ils ont embauché une seule personne pour s'occuper de la campagne de vaccination. C'est une femme, Kate Bingham, qui vient du privé, qui vient du tech, et qui a eu... tout était possible à condition qu'on essaye. Et c'est pour ça qu'on voit des gens vaccinés partout. Et c'est pour ça... Et par exemple, ils se sont posé la question, est-ce qu'on va avoir des personnels à risque qu'on va vacciner en premier? Et à part ceux qui étaient vraiment à la ligne de front, la réaction était non, il faut vacciner très vite, tout de suite, tout le monde, si on commence à faire des petits détails, on va aller trop lentement. Simple, rapide, vite.
Pas comme nous, entre 50 et 64, c'était le vaccin, sauf comorbidité.
Pas les mois en R et des choses comme ça. Et il y a une autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que l'Europe a fait une démonstration pratiquement de cas d'école pour les écoles de sciences politiques sur comment ne pas faire les choses. Parce que il y a eu à la fois de la bureaucratie, la personne qui a été mise en charge des achats ne savait pas ce que c'était. C'est quelqu'un qui vient d'un domaine totalement différent, qui n'avait jamais négocié des contrats. Il y avait donc des mauvais contrats. Il y a eu le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, c'est plein...
Vous parlez de l'Europe, là.
Je parle de l'Europe. Le ministre allemand de la Santé, c'est plein du fait qu'il pouvait vacciner trois semaines avant, mais que Ursula von der Leyen, à la Commission européenne, voulait que tout le monde fasse la première piqûre en même temps.
Justement, Lucie Robquin, j'aimerais qu'on voit, vous parler de l'Allemagne, la une du Bild, c'était il y a 15 jours. Et le Bild, c'est le grand quotidien populaire allemand, et qui ont écrit... Au sujet des Britanniques, eh bien, amis anglais, nous vous envions. Alors moi, je crois, on va voir là cette une. Est-ce que, nous vous envions. Est-ce qu'il n'y a pas une petite musique auprès des Allemands qui se disent, mais finalement, cette Union européenne, elle est bureaucratique, elle nous ralentit. Finalement, regardez, les Anglais, hors de l'Union européenne, eh bien, ils sont agiles et efficaces. Est-ce qu'il n'est pas là le risque? Et d'ailleurs, on voit que le Danemark commence à se dire, bah tiens, pour ma vaccination, je vais me détourner de Bruxelles et aller voir du côté de Tel Aviv s'il n'y a pas moyen d'être plus agile.
Oui, tout à fait. On envie les Britanniques pour leur liberté d'action, leur agilité, la rapidité avec laquelle ils ont négocié avec les laboratoires pharmaceutiques. Et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de pays européens aujourd'hui qui font ces cessions. La Hongrie, la Pologne, qui veulent acheter des vaccins russes, des vaccins chinois, en dehors des circuits européens. Et Clément Beaune, hier, secrétaire d'État aux affaires européennes de la France, s'en est ému, hein, a dit « attention, il ne faut pas faire ces cessions, attention aux francs-tireurs, parce que s'il n'y a plus cette solidarité européenne, eh ben les pays, entre guillemets, pauvres de l'Union européenne, les petits pays, n'auront accès à aucun vaccin. Donc, ils ont intérêt à jouer le jeu de la collectivité, du collectif. Et aujourd'hui, ce sont les premiers à aller voir ailleurs, en Chine et en Russie. Et ça, c'est un danger, hein, pour l'harmonisation de la santé européenne.
Et ce succès, parce qu'on a dit juste à présent, le Brexit, c'est un tel échec que ça ne donne envie à personne. Mais là, ils viennent d'enregistrer un succès. Est-ce que ce fameux effet domino qui disait, bah, tiens, la Grande-Bretagne sort, ça pourrait donner envie à d'autres pays de suivre l'exemple anglais? On avait parlé peut-être des Danois ou des Suédois qui pourraient se dire, finalement, soyons agiles en dehors de l'Union.
Je ne pense pas qu'on en soit là aujourd'hui. Non, non, je crois que personne n'a envie de quitter l'Union européenne à ce stade. Mais oui, je pense que surtout l'Union européenne va tirer les leçons de cette crise. Il y a aujourd'hui une volonté de la von der Leyen de créer une sorte de Barda américaine, c'est-à-dire de grande agence qui permettra d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide en matière de recherche médicale. Donc voilà, on apprend en marchant, l'Union européenne a été particulièrement faible dans cette première étape de la gestion du Covid. On peut espérer qu'elle soit beaucoup plus musclée et beaucoup plus coordonnée pour les prochaines étapes qui ne manqueront pas d'arriver, hein, parce qu'a priori, ce ne sera pas la seule épidémie auquel devra faire face l'Europe.
Stéphane Clark.
Oui, on a toujours vu que nous, les Britanniques, même dans l'Union européenne, on faisait tout ce qu'on voulait dès que c'était à notre avantage. Comme on a gardé la livre parce qu'on ne voulait pas être dans l'euro. Là, je pense, même si l'Angleterre, la Grande-Bretagne était dans l'Union européenne, on aurait fait autre chose avec le vaccin. On se serait dit, c'est comme la livre, on n'en veut pas de votre vaccin universel, on va avoir le nôtre. Ce n'est pas une question de Brexit, je pense. Ah ouais. Je pense que c'est là où l'énorme succès de cette campagne de vaccination, c'est que pour une fois, le gouvernement a fait confiance au système médical, qui, en Angleterre, quand même, le système gratuit, super organisé, quand on lui donne quelque chose à faire, il le fait. Et c'est vrai que si vous allez aux urgences en Angleterre, vous avez un peu mal aux pieds, vous risquez de passer 5 jours dans un couloir sans manger. Mais si vous y allez avec une crise cardiaque ou quelque chose de très grave, là, vous êtes super bien soigné. Il y a une sorte de prioritisation, et là, ce système de santé a vraiment fait son boulot. Mais l'Angleterre aurait fait tout ça, même au sein de l'Union, parce qu'on voulait tous les avantages de l'Union européenne sans les désavantages.
Éric Albert.
Je parlais à Tony Blair lundi, qui disait exactement la même chose, qui disait jamais un Premier ministre britannique dans l'Union européenne aurait laissé la commande des vaccins se faire par l'Union européenne. Il n'aurait pas laissé ça. Et il disait, et c'est intéressant, peut-être que ça rappelle aussi que oui, le Brexit, d'après lui, est une très très mauvaise idée, mais que les Européens perdent aussi un petit peu du départ des Britanniques. Peut-être que Tony Blair ou quelqu'un d'autre aurait pu bloquer ce genre de centralisme trop lourd, trop administratif de la part des Européens. Après, l'autre chose à mettre à mettre dans son contexte, c'est qu'il y a un exemple positif du Brexit, peut-être, et encore, c'est ça. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples négatifs, et on ne prend pas une décision comme le Brexit qui va avoir des conséquences pendant des décennies au nom d'un vaccin sur les trois mois qui suivent la décision. Il se trouve que c'était au milieu de la pandémie et il se trouve que ça a été positif pour le vaccin, mais ça ne suffit pas du tout à justifier le Brexit en tant que tel.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Anne-Elisabeth Moutet, Harry est-il encore un prince?
Oui, bien sûr. Il est.
Même s'il a renoncé.
Il est. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure qu'on leur avait retiré tous leurs titres, on lui a retiré des fonctions. Il est toujours duc de Sussex. On leur a pas retiré le duché de Sussex, qui était un cadeau de mariage de la reine. Et il est toujours prince du Royaume-Uni parce qu'il est toujours le petit-fils de la reine. Donc ça change absolument pas.
Relations avec la reine, d'ailleurs, petit-fils de la reine.
Il lui parle au téléphone, par Zoom, assez régulièrement. Je crois qu'elle est assez déçue des derniers développements parce qu'elle pense à l'avenir de l'institution et se plaindre et expliquer qu'on est extraordinairement malheureux dans une maison à 14 millions de dollars à Hollywood, ça fait mauvais effet.
L'Europe se venge-t-elle en ajoutant des tracasseries administratives dénuées de sens à tout commerce avec le Royaume-Uni ? Lucie Robquin, c'est vrai que on prête souvent cette intention aux Européens de dire « Ah, vous avez voulu quitter le club, eh bien maintenant on va vous punir ». Et vous allez voir comme ça va être compliqué pour les Anglais quand ils vont vouloir nous vendre quelque chose ou venir sur le continent.
Oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait un petit esprit revanchard de la part de l'Europe. On voit qu'aujourd'hui, l'Union européenne tarde à fournir des équivalences réglementaires pour permettre à la City de fonctionner, de garder son attractivité. Donc oui, je pense que l'Europe va se venger de nombreuses manières du fait que le Royaume-Uni ait quitté l'Union. Et dans les années qui viennent, il y aura beaucoup, beaucoup de sujets de friction à venir, tout à fait.
Que pense le prince William de cette situation, donc le grand frère et le prince héritier ?
Il est extrêmement mécontent. Il est vraiment brouillé avec son frère. Pour toutes sortes de raisons, il y a un schisme qui a surpris tout le monde, mais qui dure depuis maintenant 2 ans. Il y a aussi la notion de sens du devoir. D'abord, la notion du sens du devoir, et ensuite, l'incompréhension totale d'un corps étranger, si je puis dire, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive dans une famille, n'importe quelle famille, et qui dit, c'était une des premières déclarations de Meghan, je viens, je suis prête à travailler immédiatement, et je suis prête à travailler pour organiser le changement. Et quand on arrive dans une monarchie millénaire, et qu'on est la femme du fils cadet, peut-être que ce n'est pas exactement ce qu'il faut dire la première fois.
Éric Albert, les 20 millions de Britanniques vaccinés vont-ils permettre d'augmenter la popularité de Boris Johnson ?
Absolument. Sa cote de popularité a rebondi très fortement. C'est les sondages, c'était pas effondré, mais avait beaucoup baissé pendant toute la pandémie parce qu'il l'a mal géré. Et ça a nettement rebondi. Il a maintenant une dizaine de points d'avance sur les travaillistes.
Stéphane Clark, Meghan Markle a-t-elle été bien accueillie au sein de la famille royale ? Est-ce pour cette raison que le couple est parti ?
Je pense qu'elle a été très bien accueillie. On a vu son mariage. Ce n'est pas toutes les familles qui payent un si grand mariage avec autant d'invités, autant de fleurs et champagne. Oui, je pense
que c'est ça. Mais elle s'est mal acclimatée, donc.
Non, mais c'était presque impossible. C'est comme Elisabeth a dit, on ne peut pas arriver en disant « je change tout, je vais tout changer ». Elle n'a pas compris, je pense, là où elle se mettait. Ce n'était pas juste la star qui arrive dans la famille inconnue. C'était l'Américaine étrangère qui ne connaît pas la famille. Et vous savez, Kate aussi, elle a reçu toute une formation avant de prendre son rôle de princesse. C'est vraiment, il y a des règles tellement strictes et des attitudes à avoir publiques qui ne sont pas du tout faciles à suivre. Donc, je pense qu'elle a été bien accueillie, mais elle n'a pas du tout apprécié le climat.
Éric Albert, que se passera-t-il après la mort de la reine ?
Après la mort de la reine,
est-ce que c'est le prince Charles ?
Ce sera le prince Charles, c'est absolument certain. C'est la définition même d'une monarchie héréditaire. Il n'est pas question d'en changer.
Et il ne peut pas abdiquer pour William en disant, au nom du bon fonctionnement de cette royauté, non, il attend. Mais pourquoi ? Il attend son tour.
Théoriquement, il peut, mais par définition, une monarchie ne se négocie pas. On ne met pas le meilleur au poste, sinon ça s'appelle une élection et d'un coup, on fait une république. Une monarchie, c'est le suivant. Et c'est comme ça que ça se passe. Et il n'est pas question de déroger à la règle.
Stephen Clark, le conflit nord-irlandais pourrait-il reprendre ? On sait très bien qu'à l'occasion du Brexit, du coup, le nord de l'Irlande, administrativement, se trouve rattaché à la République d'Irlande. Et donc, on commence à parler un peu de réunification. Ça trotte dans la tête des Irlandais.
Oui, c'est ça. Presque tout le monde en Irlande, parce qu'ils ont vraiment peur que ça recommence, parce que les tensions se sont terminées, la guerre s'est terminée, il y a 20 ans, parce qu'on a enlevé la frontière dure. Il n'y avait plus de contrôle. Il y avait des contrôles de l'armée et de la police à la frontière. Ils fouillaient les voitures. Ça s'est arrêté et tout est devenu fluide. Et maintenant, à cause du Brexit, il y a théoriquement une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et le gouvernement britannique fait tout pour faire disparaître cette idée. Mais personnellement, ma grande crainte, c'est que le Royaume-Uni devienne le Royaume complètement désuni, que l'Irlande va se réunir. L'Écosse va partir parce qu'ils n'ont aucune raison de rester, parce qu'eux, ils vivaient tellement avec les subventions européennes. L'agriculture a tout perdu. Donc, eux peuvent devenir indépendants. Et maintenant, je veux dire, c'est l'Angleterre avec le Pays des Galles qui est en perte économique terrible. La pauvre reine, elle va vivre au milieu d'un ghetto.
Que pensent les Britanniques du départ du prince Harry et de la perte de ses titres royaux ? Alors, Éric Albert.
dans l'ensemble, en tout cas au niveau de la presse, c'est clair, c'est contre Harry et contre Meghan, avec cette idée de « mais de quoi se plaignent-ils ? Ils sont princes et enfin, ducs et duchesses, et ils peuvent, ils pouvaient parfaitement respecter les règles plutôt que d'aller pleurnicher en Californie. Je pense que la réalité est plus compliquée que ça, que derrière cette mauvaise image de Meghan et Harry, c'est aussi la presse tabloïde qui se venge du fait qu'il n'ait pas donné un accès suffisant. Mais peu importe, actuellement, l'image est plutôt négative du côté Harry et Meghan.
Anne-Elisabeth Moutet, existe-t-il des Britanniques républicains ? Est-ce que la reine et la famille royale fait l'unanimité ou il y a des gens qui disent il faudrait qu'on arrête ces histoires de reines là et qu'on soit comme en France sans les couper la tête. Mais
il y a toujours eu des républicains en Grande-Bretagne, et puis le nombre grossit et l'influence devient un peu plus importante suivant les circonstances. Et la reine n'a pas toujours été autant aimée qu'elle l'est depuis une trentaine d'années. Mais cela dit, au moment de la mort de la princesse Diana, Eric avait parfaitement raison, c'est vraiment un moment où là, il y a eu un certain danger. D'un autre côté, à chaque fois que maintenant, comme disait Eric, il y a environ 20% de républicains dans le pays, mais surtout, à chaque fois qu'on dit ça serait bien d'avoir une république, il dit qui on va avoir comme président. Imaginez un président Tony Blair, il est très impopulaire en Grande-Bretagne. Imaginez un président Boris Johnson, il trouve que c'est suffisant de lui avoir donné les clés du numéro 10. Et finalement, la permanence de quelqu'un de calme qui justement n'a pas à dire quelque chose de politique, et voilà comment on revient à la question de Meghan et Harry, cette personne dont la neutralité est absolue et qui est un garant, la constitution britannique dit que la reine doit conseiller et elle a une possibilité, le monarque a la possibilité très rare de s'interjeter au cas où il y aurait vraiment une grande décision à prendre. Et finalement, ils se disent que c'est une sécurité et qu'ils ne voient pas dans le personnel politique qui que ce soit qui mériterait d'occuper cette place-là.
Lucie Robquin, accord commercial avec Bruxelles, libre-échange avec le reste du monde, le Royaume-Uni a-t-il gagné son pari du Brexit ? Question d'Olivier dans le Pas-de-Calais. C'est vrai que on a eu des années là, de négociations, on disait que c'était indébrouillable. Et bien finalement, là, est-ce que ça y est, on a des règles claires et il n'y a plus qu'à.
Non, pour l'instant, on ne peut vraiment pas dire que le Royaume-Uni ait gagné cette bataille. Leur espoir, c'était de négocier des accords bilatéraux avec les grandes parties du monde, avec plusieurs pays importants en Asie, en Amérique, etc. Pour l'instant, on en est presque à zéro. L'avantage, c'est que le Covid occulte un peu cette question. Pour l'instant, on a l'impression que c'est normal que le Royaume-Uni n'avance pas aussi vite qu'il le souhaitait. Mais alors, je vais plagier Warren Buffett. Hein, c'est quand la marée descend qu'on
voit ceux qui n'ont pas de maillot de bain.
Voilà, c'est ça. Et donc, il est bien probable qu'à la sortie de crise, on se rende compte que le Royaume-Uni n'arrive pas à tenir cette promesse de garder sa compétitivité commerciale comme elle l'aurait pu faire au sein de l'Union européenne.
Stéphane Clark, vous avez visiblement inspiré un téléspectateur qui voudra en savoir plus. L'Écosse peut-elle faire sécession et demander son adhésion à l'Union européenne ? Est-ce que l'idée d'une indépendance, quand on va dans le nord du Royaume-Uni, on le sent de plus en plus ?
Oui, parce que les Écossais ont toujours détesté les Anglais. Moi, j'ai vécu 3 ans en Écosse et je me suis senti plus étranger là-haut qu'ici en France. Il y avait des pubs à Glasgow où je ne pouvais pas y aller. Mes copains disaient, ne va pas au bar commander toi. C'était très bien pour moi, mais ne va pas au bar commander toi parce qu'avec ton accent, ça va mal se passer. Il y a toujours eu émotionnellement un énorme trou entre l'Angleterre et entre Londres qui gérait tout. Londres qui pompait tout le revenu du pétrole qui était au large de l'Écosse. Ça a toujours existé. On a eu des référendums, en fait, il fallait 60% de majorité au lieu de 50% comme pour le Brexit. Et c'était assez juste, mais c'était non. Mais maintenant, avec le Brexit, Nicola Sturgeon, qui est très, très forte comme leader, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que si elle force le référendum, Londres dira non. Mais si elle force le référendum, il y a des chances que l'Écosse parte, oui.
Éric Albert, peut-on parler des effets très délétères de la presse people anglaise, les fameux tabloïds qui ne reculent devant rien ? Alors vous qui travaillez pour Le Monde à Londres, est-ce que vous voyez des pratiques, des choses qui vous surprennent de la part de vos confrères des tabloïds britanniques ?
La grande différence, je pense, c'est qu'il y a vraiment des vengeances. de tabloïds face à des personnes, en l'occurrence Meghan et Harry, qui ne leur plaît pas pour des raisons généralement internes. Donc là, en l'occurrence, c'était un manque d'accès à Meghan et Harry, et donc ils se vengent. Et ils y vont en mettant, en y allant à gros traits. Et c'est vrai, la presse Murdoch, par exemple, a toujours fait ça avec des politiciens qu'ils n'aiment pas. Donc quand ils ont une idée derrière la tête, ils n'hésitent pas à dégommer qui ils veulent. Donc là, en l'occurrence, ça se passe dans la famille royale. Et ça, c'est, je pense, une assez forte différence avec la presse française.
Anne-Elisabeth Moutet, vous qui êtes au Daily Telegraph, vous diriez « nous ne faisons pas le même métier ».
C'est-à-dire que la servilité à l'égard du pouvoir n'est pas une tradition britannique, alors que dans la presse française, c'est franchement différent.
Donc le tac, il est pour la presse française.
D'une part, et d'autre part, il y a moyen de... C'est pas uniquement on vous aime pas, parce qu'il y a des gens qui ont... Kate Middleton a été très maltraitée à un moment où elle était la fiancée de William. Elle n'a rien dit, elle s'est comportée parfaitement bien, elle est maintenant adorée d'absolument tout le monde, elle n'a pas spécialement donné plus d'accès que les autres, au contraire, mais elle a fait le boulot et ça s'est calmé. Et on a un peu l'impression qu'on a là, avec le jeune couple, on a un couple qui a fait une espèce de colère immédiate en disant « comment vous ne me traitez pas comme je le mérite ?» Et c'est très Hollywood, c'est pas très anglais.
Voilà, et pour terminer, juste ce message de Gilbert dans l'Hérault, triste fin de règne pour The Queen, pour la reine Elisabeth II. Merci d'avoir participé à cette émission. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. C'est dans l'air, toujours disponible gratuitement sur tous les podcasts. Bonne soirée sur France 5. À suivre, c'est l'Hebdo.